Le récit de l'apparition du Christ aux disciples dits d'Emmaüs est un des plus beaux textes de Pâques en Luc 24. Et pourtant, moi qui ai l'esprit curieux et mal tourné, il m'a toujours posé un problème. Parce qu'en fait, Emmaüs est une ville qui n'existe pas. C'est-à-dire que personne ne sait où est Emmaüs. Cette ville n'est jamais citée ailleurs dans la Bible. Elle n'est jamais citée dans l'Ancien Testament. Et comme on ne sait absolument pas où c'est, si vous visitez Israël, les guides vous montrent plusieurs villes possibles qu'ils appellent Emmaüs, sans que l'on sache très bien de laquelle il devait s'agir. Le texte dit qu'elle était éloignée de 60 stades, alors on prend un compas et à partir de Jérusalem, on regarde les villes qui sont éloignées de cette distance et on suppose que ça doit être l'une de celles-là. Alors je n'aime pas ce genre d'imprécision parce que la Bible ne donne jamais des noms de lieux sans que cela ait une importance. Et évidemment, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il fallait que l'on nous dise que cette ville s'appelait Emmaüs. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Alors j'ai cherché encore et j'ai découvert que dans certains manuscrits, il y avait une variante et qu'on disait que la ville ne s'appelait pas Emmaüs, mais Oulamaüs. Et Oulamaüs, je sais ce que c'est, parce que ça, c'est une ville qui est citée dans l'Ancien Testament, et c'est une ville qui est citée en particulier dans le texte du rêve de Jacob, justement, où Jacob fait le rêve d'une échelle entre le ciel et la terre avec les anges qui montent et qui descendent. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport entre ces deux textes. Et en fait, oui. Il y a des ressemblances étonnantes entre ces deux textes. Tous les deux se passent au coucher du soleil, ce qui est déjà un point. Ensuite, dans les deux cas, il y a la question d'un lien entre le ciel et la terre, avec des messagers qui montent et qui descendent. Et là, c'est bien aussi le récit de Pâques, Jésus qui descend du ciel sur la terre et qui remonte au Père, par sa mort et par sa résurrection. Et puis également, dans ces deux textes, on voit le croyant, Jacob, ou les disciples, qui ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Les disciples, d'abord, avaient cette présence de Jésus avec eux dans leur marche, et ils ne le reconnaissaient pas. Et à la fin, ils se disent, mais bon sang, qu'on a été bêtes, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ? Jésus était là et nous ne le reconnaissions pas. Et Jacob dira la même chose, puisque à la fin de son rêve, il dira « Certainement, Dieu est présent en ce lieu et je ne le savais pas. » Et puis on pourrait continuer encore, il est question dans les deux textes de pain que Dieu donne à manger. Et puis dans les deux textes, il est question aussi de retourner dans la maison du Père, de retourner à Jérusalem. Donc finalement, oui, ces deux textes vraiment se font écho l'un à l'autre. Et je crois même qu'ils s'expliquent l'un l'autre. Alors en effet, on pourrait penser que les disciples, finalement, sont un peu comme Jacob. Jacob, si vous avez bien révisé votre histoire sainte, vous savez qu'il arrive à cet épisode du rêve alors qu'il était en train de s'enfuir. Il était en train de s'enfuir de chez son oncle Laban, et de la même manière, les disciples aussi sont dans une mauvaise situation. Ils sont en déroute, je dirais, ils sont dans leur déception, parce qu'ils espéraient que Jésus soit le sauveur, et ils se disaient, il va se passer des choses extraordinaires, il va libérer Israël, et puis voilà que Jésus meurt comme n'importe quel brigand, et que voilà 3 jours, il ne se passe toujours rien. Et ils se disent donc on est perdu dans notre espérance. Et ils filent, je vous disais, un mauvais coton. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le sens de cette ville d'Emmaüs. C'est que Oulamaüs ou Oulamaüs, ça veut dire la porte de l'éloignement, la porte de l'abandon. Et Oulamaüs, donc le nom de cette ville, ça veut dire la porte du défaut ou la porte du crime. Et Emmaüs, ah là on y arrive, et bien ça aussi c'est de l'hébreu, ça veut dire la puissance du mal, la puissance du crime. En fait, Emmaüs, c'est pas un nom de ville, c'est simplement un mot hébreu qui veut dire la même chose que Oulamaüs. Ça veut dire qu'on est là dans le triomphe de la force de la destruction, de la force de la mort, de la force du mal, la force de la, je dirais, de la tromperie, de la déception et du désespoir. Et d'ailleurs, c'est pareil pour cette distance. On nous dit que c'est à 60 stades de Jérusalem. Alors les guides touristiques se trompent en prenant leur compas pour vérifier les villes qui sont à 20 km de Jérusalem. 60, c'est un nombre symbolique dans la Bible. Le 6, c'est le mal. 666, c'est le nombre de la bête. Cela veut dire que les disciples sont en train de s'éloigner de l'espérance. Au lieu d'aller vers Jérusalem, qui est le lieu de la rencontre avec Dieu, ils s'en éloignent. Ils s'éloignent de la religion, ils s'éloignent de la foi, ils s'enfuient. Ils courent finalement dans une sorte de fuite éperdue qui, au lieu de les ramener vers le centre de leur espérance et de leur foi, ils partent comme ça, sans savoir exactement où ils vont, dans l'égarement, dans l'abandon de Dieu. Et là, nous avons une bonne nouvelle, dans un texte comme dans l'autre. C'est que même dans nos chemins d'égarement, même dans nos fuites grotesques, perdues et ridicules, eh bien Dieu toujours nous rejoint. Et même si nous nous éloignons de lui, même si nous quittons ce que nous n'aurions jamais dû quitter, Dieu, lui, ne nous quitte pas, mais il chemine avec nous. Et même quand on a fui là où on aurait dû être, eh bien nous croyons que nous sommes loin de Dieu, mais Dieu est là, même si nous ne le savons pas, même si, comme les disciples, nous ne savons pas le reconnaître. Et ça, c'est bien ce que l'ange dira à Jacob. Il lui dit: voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai jamais. Et c'est aussi la promesse du Christ à la fin de Matthieu: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et bien ça, c'est une première nouvelle extraordinaire. Les disciples sont dans le désespoir, ils sont dans le noir, ils se trompent de route, ils font tout à tout travers, je dirais, et pourtant Jésus va marcher avec eux. Reste à savoir le mode de présence, c'est-à-dire quel est le mode de cette présence de Dieu qui est tellement efficace que ça va rendre la lumière, l'espérance, la vie aux disciples, que ça va redonner confiance à Jacob. Et pourtant, cette présence que l'on ne reconnaît pas toujours tout de suite, eh bien, je crois que cette présence, elle est avant tout dans, je dirais, de deux manières. D'abord, dans une sorte de présence intime qui n'est pas quelque chose d'objectivement contraignant. Le Christ ressuscité n'apparaît qu'aux croyants. Ça, c'est assez extraordinaire. Jésus ressuscité n'apparaît pas à Pilate. Il ne lui dit pas: alors, ah, tu fais moins le fier maintenant, hein, tu vois qui je suis. Il n'apparaît pas à ceux qui l'ont condamné, il n'apparaît pas à ceux qui l'ont crucifié, il n'apparaît qu'aux croyants. Ça veut dire que le Christ ressuscité est une réalité que l'on découvre dans la foi. Alors que moi, quand je me promène dans la rue, j'apparais aussi bien à ceux qui m'aiment qu'à ceux qui ne m'aiment pas. Et le président de la République apparaît aussi bien à ceux qui ont voté pour lui qu'à ceux qui ne votent pas pour lui. Le Christ ressuscité n'apparaît pas comme ça, il apparaît pour ceux qui croient en lui, en quelque sorte. Donc c'est un mode de présence dans l'intimité, un mode de présence dans la foi, un mode de présence qui ne s'impose pas et dont on n'a pas toujours conscience, ça c'est important. L'autre chose, c'est que le texte d'Emmaüs dit quelque chose d'assez amusant et auquel on ne prête pas toujours attention quand on le lit. Le texte dit mot à mot, au moment où Jésus apparaît, on dit que les disciples marchaient, et on dit Jésus apparut dans leur discussion et dans leur recherche. C'est ce que dit le texte, j'y peux rien. Jésus apparut dans leur discussion et dans leur recherche. Cela veut dire que il apparaît précisément dans le lieu de leur discussion et dans le lieu de leur recherche. Les disciples étaient en train de parler ensemble, de discourir sur le Christ, sur ce qu'il avait fait, sur ce qu'il avait dit, sur ce qu'il avait annoncé. Et c'est justement en tant qu'ils parlent de cet évangile que le Christ se fait présent à côté d'eux. C'est-à-dire que le Christ apparaît dans un échange de paroles. Il apparaît dans un échange de paroles. Et de même, Jacob est mis en présence d'anges qui montent et qui descendent. Et vous savez que les anges, dans la Bible, ne sont pas des créatures. Enfin, ça, c'est une tradition tardive qui est apparue plus tard. Mais dans la Bible que nous avons, les anges, ce sont simplement des messagers. Ce sont des mots, des paroles de Dieu. Et c'est ça que Jacob voit apparaître. C'est de la parole de Dieu qui descend et de la parole qui remonte. Et c'est là-dedans, dans cet échange de paroles qui montent et qui descendent entre le ciel et la terre, que Dieu se fait présent et que tout à coup, Jacob va comprendre que Dieu était présent. Dans un autre texte, il y a toujours une très belle chose de Jacob, vous savez, qui se bagarre avec un ange. Et là aussi, je l'avais déjà dit, il faut, je crois, pour trouver cette présence de Dieu, se bagarrer dans une sorte de corps à corps avec le texte, avec l'Évangile, avec la Bible. Il faut se battre avec elle, se débattre, rechercher à plusieurs, questionner, en parler, toute la nuit, discuter, rediscuter, questionner, se disputer même. Et c'est dans cette espèce de bagarre, je dirais, sur la chose spirituelle et religieuse que l'on peut accéder à la bénédiction. Alors c'est vrai que c'est parfois difficile, c'est une parole qui nous remet en cause. Le Christ qui apparaît d'ailleurs, je vous ai parlé de bonnes nouvelles, mais en fait quand il apparaît aux disciples, il commence par les engueuler. Et il leur dit « homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ». Bon, oui, cette parole, parfois, elle nous remet à notre place, je dirais, c'est certain. Et Jacob aussi, d'ailleurs, de ce combat avec l'ange, va sortir boiteux. Il sort boiteux, mais béni. C'est-à-dire, cette parole, peut-être, oui, nous écorne un peu notre orgueil, mais il nous met dans une juste place qui nous permet d'arriver à la vie. Et puis l'autre chose remarquable, c'est que dans les premiers temps, je vous disais, cette parole n'est pas reconnue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet immédiat. Ce n'est pas, dès qu'on lit un évangile, tout de suite, ça y est, c'est la lumière, l'espérance, la joie, la paix, l'équilibre, le bonheur et tout m'est donné. Il faut un certain temps pour que cela apporte quelque chose. Les disciples d'Emmaüs vont découvrir le Christ quand il leur donnera le pain à manger. Il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, il leur donna, et à ce moment-là, ils le reconnaissent. Ça, c'est étrange. Alors, je crois qu'il ne faudrait pas rester sur une sorte d'interprétation sacramentelle en disant « cela veut dire qu'on ne peut reconnaître la présence du Christ que dans le partage d'un rite d'église ». Je ne pense pas qu'il soit question de cela. Mais je pense plutôt que cela nous explique qu'on peut découvrir le Christ dans l'expérience fondamentale qui est que l'on découvre que cette parole peut nous nourrir, que cette parole peut nous apporter quelque chose et nous donner une force intérieure, nous donner une puissance, une source de vie essentielle. Alors dans un premier temps donc, on voit ce qui se passe avec les disciples. Dans un premier temps, on est dans l'expérience intellectuelle, on est dans le débat, dans la curiosité, on discute de ces choses-là, on apprend l'histoire sainte, sans qu'il y ait de grande nourriture, ni de présence réelle, ni de quoi que ce soit. Et puis enfin, on va peut-être trouver que cette parole, finalement, est bonne, sans encore très bien comprendre ce que ça apporte, mais comme les disciples, nous pourrons dire « Reste avec nous, parce que le jour décline. Oui, j'ai besoin de cette parole, finalement, elle m'apporte un petit quelque chose. » Et enfin, ils vont trouver que cette parole, eh bien, elle peut les nourrir. Et ils vont se dire, mais finalement, il est là, présent le Christ, dans cette parole. Et il est là présent dans cet évangile que je lis tous les jours, dans cet évangile que je médite. Il est là présent dans cette parole que je partage et dont je parle avec mes frères et mes sœurs. Il est là. Et il y a là-dedans une source de vie. Et alors à ce moment-là, ils vont revenir de leur éloignement. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait finalement à s'éloigner comme ça, partir je ne sais où, vers Emmaüs, la porte du crime? Et ils reviennent à Jérusalem. Ah ben, il serait temps. Ils reviennent enfin vers Dieu. Et ils reviennent aussi vers les autres, parce que les autres étaient à Jérusalem. Et donc ils sortent de ce petit égoïsme dans lequel ils s'étaient enfermés à deux, et ils reviennent vers les autres, vers Dieu, vers la communauté, vers la source même de la relation spirituelle. Et ça, ils vont devenir ainsi acteurs et témoins de cette bonne parole. Ce qui est étrange, encore dans ce texte, c'est que le Christ va leur être ôté. Alors là, j'ai mis longtemps à comprendre, et là aussi, moi, j'ai réfléchi aussi, comme les disciples d'Emmaüs, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, au moment où ils veulent retenir le Christ disparaît? Eh bien, peut-être que la réponse, elle est dans ce que je viens de dire, en fait. C'est que ce mode de présence du Christ ressuscité, c'est avant tout dans la parole. Et peut-être que, justement, cette parole, eh bien, c'est un pédagogue. L'évangile n'est pas un but en soi, de même que la pratique religieuse. Le but, c'est d'aller vers les autres. Le but, c'est d'aller vers Dieu. Le but, c'est d'aller de retourner à Jérusalem et d'agir. C'est ça que nous devons faire. Le but, ce n'est pas de rester en contemplation passive devant le Christ, en disant « Ah, je suis bien avec mon Dieu, je suis bien avec mon Jésus, je suis bien dans la prière, je suis bien avec ma Bible. » Ça, c'est important. Mais ce n'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'aller en mission. Et donc, il y a une importance, à un moment donné, de l'absence de Dieu. Jésus a dit cette parole curieuse. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que la vie est sans arrêt comme cela, où il faut rechercher Dieu et à un moment donné se détourner de Dieu pour aller dans l'action et pour aller dans le monde. Il ne faut pas se noyer dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui, d'assoiffé, qui se sauterait dans un puits et où il se noierait. Il faut aller puiser l'eau dans le puits, s'en désaltérer, et ensuite aller emporter aux autres, et ensuite aller agir dans ce monde. Et donc ce qui est fécond dans ce monde, ce n'est ni l'absence de Dieu, ni l'obsession permanente de Dieu, que certains croyants recherchent, à mon avis à tort, ce n'est pas l'obsession permanente de Dieu, ni son absence qui est fécond, mais c'est, je dirais, sa présence dans son absence et son absence dans la présence. Si Dieu est absent, il faut le chercher, il faut le rendre présent. Si Dieu est présent, il faut le laisser de côté et aller vers son frère ou sa sœur. Si Dieu est présent, il faut le laisser de côté et, je dirais, agir comme si nous étions seuls responsables de l'action dans le monde. C'est ce que fait le maître de toutes les paraboles qui part en voyage et qui confie tous ses biens à ses serviteurs. Et ça, c'est également ce qui se passe dans l'échelle de Jacob. Ces messagers, vous savez, qui montent et qui descendent sur l'échelle. D'habitude, on dit que c'est la parole qui monte et qui descend, ou alors que c'est la parole de Dieu qui descend vers l'homme, et ce qui remonte, c'est les bonnes prières, les bonnes actions et toutes les choses positives qui remontent à Dieu. Peut-être que ce n'est pas ça finalement. Peut-être que ces messagers qui montent et qui descendent ne sont que des paroles de Dieu qui sont données et qui sont retirées. C'est-à-dire cette présence de Dieu qui est donnée et qui est retirée. Comme le Christ qui se rend présent dans la scène et qui ensuite meurt, et les disciples arrivent, tombent au vide. Et cette espèce de douche écossaise entre la présence réelle de la communion et l'absence réelle du tombeau vide, et de nouveau présence avec l'apparition, et de nouveau absence avec l'ascension, c'est justement ce travail, je dirais, d'attendrissement de l'homme qui permet de lui trouver une juste relation à Dieu et qui lui permet de trouver une position active, dynamique et créatrice dans ce monde. C'est un mouvement de va-et-vient qui est créateur. S'il manque l'un des deux, on est asphyxié ou stérilisé. Alors grâce à Dieu qui nous accompagne, si nous acceptons de marcher avec lui, de nous batailler avec lui, je dirais, alors notre vie de tout triste qu'elle était, comme celle des disciples, devient une vie de joie et de lumière. Une vie qui était comme celle de Jacob, une vie de fuite, une vie de crainte et de peur, devient une vie d'abondance, de confiance. Une vie qui était d'endormie au début, nous nous réveillons. De mort que nous étions, nous vivons ressuscités avec le Christ. De couchés et d'abattus que nous pouvions être, nous nous relevons. Et c'est ça le sens de Pâques, c'est ça le sens de la résurrection. Et c'est par ce procédé que nous pouvons être bénéficiaires de cette bonne nouvelle de Pâques. Parce qu'à Pâques, nous ne sommes pas simplement des spectateurs en disant « Tiens, c'est très bien, il a ressuscité Jésus, mais moi je reste dans mon cul de basse-fosse. » Ça n'est pas cela. Pâques, c'est la fête de la résurrection, d'une résurrection qui ne concerne pas le Christ. Ou alors, si c'est ça, ce ne serait que le dernier des miracles de Jésus, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais c'est plutôt une résurrection qui nous tire avec lui. Et Pâques nous propose à ceux qui veulent de cheminer avec la parole et au lieu d'aller vers ce lieu qui s'appelait autrefois le portail de la perversion, c'est le sens d'Emmaüs, le portail de l'éloignement, que cela s'appelle désormais la porte des cieux et la maison de Dieu. Et ça, c'est la juste conclusion du texte de l'échelle de Jacob, qui s'applique aussi au récit de Luc. C'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. Vous voyez qu'on est loin de cet Emmaüs vers lequel ils allaient, qui était la porte du crime et la porte de l'abandon. Et c'est cela que je demande à Dieu qu'il puisse nous offrir à chacun de nous pour ce temps de Pâques, justement de passer par cette porte des cieux, d'entrer dans cette maison de Dieu, qui est une maison de lumière, d'espérance, de paix, de joie, de confiance, de vie, et également d'action, de mission dans ce monde qui en a tant besoin. Amen.